Voilà, bonjour à chacun et chacune. Bonjour à vous et c'est une joie de vous retrouver et de venir vous rencontrer aussi. C'est avec plaisir parce que la famille de Dieu est grande. Que Dieu bénisse ce temps où on ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. On peut entendre, on peut connaître, on peut dire ça je sais, mais combien c'est parfois compliqué pour nous de mettre en application ce qu'on entend. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Sa parole nous guide, mais l'Esprit de Dieu stimule cette œuvre dans nos cœurs et il y a de la joie de partager certaines choses. Vous connaissez certainement, vous qui êtes lecteur de la Bible, ce récit où l'Arche de l'Alliance avait été, n'était plus, je dirais, dans possession, les Hébreux n'étaient plus en possession de l'Arche de l'Alliance. Ça avait été compliqué, il y a eu tout un tas de moments difficiles. Et puis on récupère l'Arche de l'Alliance et on sait qu'à un moment donné, David... après cette fameuse situation avec Uzza, je survole, mais je vais aller sur ce qui m'intéresse. On sait que David va mettre l'Arche de l'Alliance chez un certain Obed d'Edom et va rester 3 mois là. Et après, il va aller la chercher. Après avoir vérifié certaines choses, il est allé la chercher. Et c'est ainsi qu'on pense que le psaume 100, qu'on va lire ensemble, est inspiré, je dirais, de cet événement-là. Et c'est un psaume de louange, le psaume 100. Ça va me servir d'introduction. Vous savez, c'est ce moment où David va danser devant l'Arche de l'Alliance, un petit peu la surprise même de sa femme qui va lui dire certaines choses. Et il est dit au chapitre 100 des psaumes, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. » Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. On voit bien ici qu'il y a l'enthousiasme que... Alors qu'on suppose que c'est David qui a écrit ce psaume, il y a vraiment ce désir de se réjouir devant Dieu, au milieu de réjouissance, il nous est fait mention. Et dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 14, il nous est dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphod de lin. Donc, servez l'Éternel avec joie. On voit bien qu'il est enthousiaste. On voit bien qu'il est, alors qu'il exprime ce psaume, il exprime ses paroles, il est vraiment heureux, plein d'enthousiasme. Vous savez que le mot enthousiasme, ça vient du fait d'être rempli de Dieu et être dans la joie, dans l'exaltation, théo, enthousiasme, etc. Bon. Servez l'Éternel avec joie. Mais si on regarde dans 2 Samuel chapitre 7, je fais une autre appel à votre mémoire encore une fois, on lit que David projette de bâtir une maison à l'Éternel. Donc on voit bien que c'est un temps pour David, entre 2 Samuel 6 et 2 Samuel 7, un temps où il y a vraiment un élan pour Dieu. C'est sur la fin de sa vie quand même, et il y a un élan pour Dieu. Alors c'est formidable d'être enthousiaste pour Dieu, non? Oui, oui. J'espère qu'il y en a parmi nous. Vous l'êtes de cœur. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours que ça s'est ainsi. On peut connaître cet enthousiasme, on peut être des fois dans lisant la parole de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, bouleversé dans son âme, heureux, plein de reconnaissance, de joie et de foi. Et il y arrive aussi que malheureusement, il y a d'autres événements qui nous font goûter à des situations qui ont un effet plutôt contraire, plutôt difficile. Et cet enthousiasme disparaît un petit peu, s'étiole, s'altère. Mais Dieu nous aime et ne nous abandonne pas. Alors, ce matin, je voudrais voir avec vous quelqu'un... un exemple biblique d'une personne, on ne connaît pas son nom, qui va vivre un contexte qui n'est pas des plus enthousiastes, un contexte qui est un peu complexe pour elle, pour cette personne-là. Mais même si on ne connaît pas son nom, même s'il y a peu de versets qui relatent ce qu'elle a fait, on va voir que la Bible nous décrit la situation qui n'était pas la plus favorable, mais comment elle se comporte. Et moi, j'ai toujours été impressionné par cette attitude, ce cœur, cette simplicité. Le titre de mon message ce matin... c'est celui-ci, le cœur du serviteur de la servante du Seigneur, son cœur, son état d'esprit. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je vais dire certains aspects, mais que Dieu soit béni, que Dieu puisse se glorifier. On prie ensemble, nous te bénissons. parce que tu es celui qui veut nous parler au travers de ta parole. Ce n'est pas une lettre qui tue, ce n'est pas une lettre qui nous condamne, mais ton esprit rend vivant tout ce que tu veux, Seigneur, modeler dans nos cœurs. Nous voulons être disposés et disponibles entre tes mains. Et je prie de bénir par ton esprit chacun d'entre nous. On a besoin de toi, Seigneur, pour aller jusqu'au bout et pour être transformés de gloire en gloire. Merci pour ce que tu accomplis et tout le chemin parcouru, mais nous croyons que nous avons encore des progrès à faire pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ouvrez avec moi dans le second livre des Rois, au chapitre 5. On va faire une lecture dans ce chapitre 5. Et vous allez voir, il y a plusieurs serviteurs dans ce chapitre, hein, plusieurs serviteurs. Et on va s'arrêter sur l'un d'entre eux. Le Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait, partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lève-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Cette dernière phrase me fait penser à un témoignage, mais je vais rentrer dans le sujet, hein. Un témoignage que je veux bien vous donner, qui est la gloire du Seigneur. Dans le village où on habitait, quand on était en Charente-Maritime, il y avait une dame qui avait un enfant qui était à l'école avec un de nos enfants. Et cet enfant avait de l'eczéma extérieur, d'un eczéma purulent à l'extérieur, mais il était dit aussi à l'intérieur de son corps. Et en discutant, mon épouse en discutant avec cette maman, elle disait, vous savez, elle lui disait, tu sais, je l'amène toutes les semaines voir un penseur, vous savez, ceux qui font un peu de trafic côtoyage, hein, plus qu'un peu. Et rien ne change. Et là, Claudine et mon épouse ont dit, mais ne le fais plus. Par contre, on peut, si tu veux, prier pour lui, pour que Dieu se manifeste dans son corps. Elle a dit, pourquoi pas ? Parce qu'il y avait des rencontres, il y avait des dames qui voulaient prier ensemble pour les enfants de l'église. Et donc, elle a assisté à cette rencontre à l'église et ils ont prié pendant plusieurs fois, plusieurs réunions pour cet enfant. Et quelques temps après, bizarrement, on n'a pas vu, parce que c'était les vacances, on n'a plus revu cette maman, elle habitait dans le village, mais on ne se voyait pas. Et un jour, alors qu'on était en déplacement quoi, dans la ville, on faisait une course, voici qu'on voit cette femme sortir rapidement de ce magasin, elle nous arrête presque la voiture, et alors on la voit, et on lui dit, alors comment ça va ? Elle avait un sourire jusqu'à la dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a plus rien, mon fils. Hein. Aujourd'hui, il était enfant, il avait 6 ans. Aujourd'hui, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il a 20 et quelques années. Et il est tout en pleine forme, il n'a jamais plus eu de soucis. Hein, là, il s'est plongé cette fois dans le Jourdain, il a été guéri, mais Dieu est puissant et guérit encore. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour la gloire du Seigneur, je voulais donner ces choses-là. Alors, nous avons un récit ici où il y a plusieurs serviteurs. Il y a la servante de Naaman. Il y a les serviteurs qui font partie de l'escorte de Naaman, vous savez, qui vont conseiller Naaman à juste titre. Hein, des fois, ils ont eu le courage de le faire. On ne connaît pas leur nombre, mais ils y sont. Et puis, si on avait continué le texte, il y a le serviteur Gazi, serviteur d'Élysée. Trois sortes de serviteurs, trois catégories de serviteurs. Mais je vais m'arrêter sur la première. C'est la servante de Naaman. J'ai toujours été bouleversé parce qu'on imagine qu'elle était probablement jeune fille, jeune femme. Elle est là, elle a été emmenée captive, elle est devenue esclave, pardon, esclave de Naaman. Et dans ce contexte, voici qu'il y a ces événements qui nous sont relatés. Deux versets nous parlent d'elle seulement, mais ce qui me plaît et ce qui me touche, c'est ce cœur de serviteur qu'elle a, de servante qu'elle a, qui me parle toujours, moi, il me semble, et certainement va nous parler, nous rappeler ces choses. Et on voit ici qu'elle... je voudrais d'abord, dans de premier temps, dire ce qu'elle ne fait pas. La première chose qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle ne change pas dans son cœur selon le contexte dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'elle ne s'adapte pas au contexte, elle ne change pas d'avis. Et dans la Bible, il y a des exemples, de plusieurs exemples de personnes qui vont rester alors qu'ils sont déportés, alors qu'ils sont malmenés dans des contextes bien compliqués, ils ne changent pas, ils restent fidèles à Dieu. Ça, ce sont des serviteurs et des servantes que Dieu aime, parce que leur cœur ne veulent pas déroger à ce qui est Dieu, à ce que Dieu attend. Hein. Elle ne s'est pas laissée atteindre par l'amertume, cette femme-là, cette jeune femme-là. Elle n'a pas désiré la vengeance en disant « mais ce n'est pas normal que je sois là ». Pourtant, ça pouvait ne pas l'être normal, hein. Elle ne s'est pas laissée emporter par la colère contre le peuple. Elle n'a pas cherché à fuir pour tourner même dans son pays. Elle n'a pas essayé de faire certaines choses. Et ça nous fait penser à Joseph, qui se retrouve en Égypte à cause de ses frères. Hein, j'allais dire grâce à ses frères, non, à cause de ses frères. Hein, et il se retrouve dans un contexte différent, mais on voit bien qu'il reste fidèle à Dieu. Et même s'il est pris en otage, même s'il y a de l'injustice, il demeure fidèle à Dieu. On retrouve, actuellement, on est en train d'étudier avec les chrétiens d'Albi, on fait le livre de Daniel, et on retrouve cette pensée-là avec Daniel et ses trois compagnons, cette capacité spirituelle, morale, qui n'est pas impossible à atteindre, seulement il y a une conviction profonde, la fidélité à Dieu qui est là, et il y a une volonté de ne pas déroger à sa foi, à son engagement pour le Seigneur. Ils demeurent les mêmes malgré le contexte. Hein, alléluia. Hein, oui, vous êtes avec moi, hein, vous êtes loin, mais vous êtes loin, je ne vous vois pas. Hein. Pas grave, je vous entends. C'est l'intégrité, rester entier dans ce que l'on est. On est dans ce monde avec tout un tas de ténèbres, tout un tas de philosophies, de religiosité, d'obscurantisme, mais l'enfant de Dieu veut rester fidèle à son Dieu. Il veut demeurer fidèle. Oui, ça bouge en tous les sens, mais nous avons un fondement extraordinaire, c'est qu'on connaît la grâce de Dieu. Soyons de ceux qui n'ont pas un témoignage altérable à cause des situations difficiles. Oui, alors les situations difficiles peuvent ébranler un peu. Hein. Elles peuvent, vous savez, comme ce bateau qui est sur les eaux, il y a la tempête, il bouge, mais s'il a l'ancre bien attachée, il va bouger, mais il va pas échouer. Et notre foi, elle est ainsi, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans ce que Dieu nous dit, et s'il y a même des tempêtes, oui, on subit, oui, c'est compliqué, mais nous sommes attachés au Seigneur, nous sommes attachés à sa puissance et à sa force. Vous savez, Dieu est au-dessus de tout, on le dit, mais des fois, je pense que nos pensées presque pensent le contraire, que Dieu nous aide à le mettre au-dessus de toute chose. Le serviteur, la servante du Seigneur demeure le ou la même, peu importe le contexte. Et cette jeune femme, on ne sait pas que sa foi, on ne connaît pas ce qu'elle est, etc. Mais on voit bien qu'elle demeure et puis elle est là et elle cherche à faire ce qu'il y a à faire devant elle. Elle ne se laisse pas détourner de sa foi en l'Éternel. Rappelez-vous, nous sommes en Syrie et ce n'était pas la fidélité à Dieu. Ce n'était pas un temps dans ce moment-là où les Syriens c'était un peuple païen, idolâtre, hein, qui aurait pu, et elle aurait pu se sentir obligée en tant qu'esclave de peut-être réduire la voilure de sa foi, au moins de la mettre un peu plus cachée. Et moi, là, je pense à tous nos frères et sœurs persécutés aussi. Hein. Je pense à ça. Hein. Hein. Vous savez, tout comme Joseph, quand il va révéler le songe à Pharaon, pardon, il va bien dire que c'est l'Éternel. Il ne va pas dire, moi, j'ai cette capacité, moi. Il fait comprendre que ce qu'il peut dire comme interprétation n'est pas lié à ce qu'il est, mais lié à ce qu'il est, lui. Il rend la gloire à Dieu. Et il aurait pu, pourtant, subir les foudres de Pharaon. Il aurait pu dire, mais qui tu te prends pour qui ? Et Pharaon, il aurait pu certainement le rejeter. Nous pensons à Daniel et ses compagnons. Combien de fois Daniel va interpréter, parce que Dieu est avec lui, hein, c'est Dieu qui donne la révélation. Il connaît au moins trois rois différents, ça va être compliqué, mais il demeure le même. Et même alors qu'on leur interdit de prier, ils continuent de prier. Alors qu'on leur dit d'adorer la statue, ils n'adorent pas la statue. Béni soit le Seigneur. Voyez l'enfant de Dieu, le serviteur, il est ainsi. Et il y a des frères et sœurs dans ce monde qui sont persécutés à cause de leur foi et tiennent ferme, parce que nous voulons aussi les soutenir dans la prière, et nous voulons regarder à cela. Il y a quelques années de ça, c'était un pasteur qui a été malmené, alors je ne me rappelle plus le pays, là, ça m'échappe, il a été tué à cause de sa foi dans certains pays, et bien sûr, certains organismes chrétiens ont dit à son épouse, à sa veuve, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène, on va essayer de faire des papiers pour vous amener en Europe, etc. etc. Et la sœur, elle a dit, mais surtout pas. Je veux continuer cette mission d'annoncer la parole de Dieu. Si mon mari est mort à cause de sa foi, moi aussi, je veux. Tant pis, je subirai, mais je veux servir le Seigneur. Nous, on en a la notion qu'il faut épargner et tout. Mais celui, l'enfant de Dieu, lui, ne cherche pas à être épargné, il cherche à respecter Dieu, parce que Dieu est au contrôle. Et s'il permet qu'on souffre, eh bien, il nous donnera la force de passer dessus par sa grâce. Joseph ne s'est pas conformé au monde égyptien, à son époque. Daniel et ses compagnons ne s'est pas conformé au mode babylonien, à la mode babylonienne, et les autres royaumes qui se sont établis par la suite. L'Église persécutée ne veut pas se conformer aux exigences contraires à la parole de Dieu, et l'enfant de Dieu en France, à Toulouse, à Saint-Anne, ne veut pas se conformer à l'esprit du monde, mais dit Seigneur, donne-moi d'être fidèle jusqu'au bout. Amen. Hein ? Soyons de ceux qui ne se conforment pas au monde. Et vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, on pourrait faire la morale. Je ne fais pas de morale, mais soyons en réfléchissant à ça. Ne nous laissons pas imprégner de la mentalité de ce qui se passe. Continuons à croire toujours plus en l'Éternel. Vous savez, la foi, ce n'est pas un concept intellectuel. Hein ? Ce n'est pas intellectuel, sinon, bon, ça serait pauvre. Mais la foi est pleinement révélée et concrète dans les contextes, des fois les plus sombres de nos vies, des moments où c'est compliqué. Des moments où on ne sait pas trop où ça va, mais c'est là où on se rapproche bien plus de Dieu. On dit, bah, Seigneur, secours-moi. Hein? Alors, on peut ressentir des fois le syndrome du petit troupeau face à la multitude de ceux qui ne croient pas. Hein? Et, la loi du nombre dans la Bible, ce n'est pas une loi qui existe. Hein? C'est-à-dire, je m'explique, le fait d'être plus nombreux est un signe de réussite pour certains. Ils pensent que, ben, comme tout le monde fait ça, c'est bon. Mais en fait, c'est tout le contraire. Dans la parole de Dieu, c'est souvent le contraire. Donc ne te laisse pas et ne nous laissons pas détourner de notre foi, même si je traverse, même si toi, mon frère, ma sœur, tu traverses un temps particulièrement compliqué et difficile. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Hein? Cette femme-là, cette jeune femme-là aussi, ne tire pas de conclusion hâtive. Elle ne dit pas, ah, il mérite cela, ce général syrien. Eh oui, il est venu nous oppresser. Ils sont venus piller notre peuple. Et donc, c'est normal, hein? Ce que je sème, je le moissonne. Eh oui, c'est pas vrai, on le dit ça des fois. Hein? Et c'est biblique, il en a raison. Mais attention comment on dit les choses. Hein? Cela peut. Vous voyez, on peut aller avoir ce sentiment que Dieu est en train de se venger de la situation. Et on a vite fait, quand ça nous blesse, on soupire après une sorte de vengeance qui est là. Mais c'est l'apôtre Paul dit aux Romains, hein, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Jésus qui dit ça. Hein? Et c'est pas à nous à nous venger, c'est Dieu qui fait comme il entend. Mais elle n'a pas cet état d'esprit. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, je vivais dans une église, peu importe où, et souvent, j'étais interpellé, parce que moi j'avais des amis à l'école, bon, les adolescents, hein, on n'était pas... Voilà, moi j'aimais le Seigneur, mais j'aimais aussi ces jeunes avec qui j'étais, qui n'étaient pas obligatoirement... On n'était pas des pestes, bon, on en a fait hein, quand même, mais on n'était pas non plus... voilà. Eux, ils en ont fait, moi j'en ai fait aussi un peu quand même. Voilà. On a fait des bêtises. Et j'entendais dans le discours de beaucoup de frères et sœurs, c'est le monde, et on parlait du monde avec mépris. On parlait des gens avec mépris. Moi, j'étais là, adolescent, je disais, mais pourquoi il y a cette espèce de... Je ne comprends pas, il m'échappe quelque chose. Pourquoi il y a de la haine pour les gens? Alors j'essaie de comprendre, je n'ai pas trop compris, et je me suis dit, mais en fait, on se trompe. Hein, on se trompe ici. Cette jeune femme, elle n'a pas dit « Oui, je les méprise, c'est eux qui m'oppressent, c'est eux qui me font du mal, c'est eux qui ceci, cela. » Elle n'a pas essayé de dire « Ah ben tiens, bien fait pour sa poire, etc. etc. » Non, 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 ça c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas, pardon, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne nous demande pas de mépriser le prochain. Dieu nous demande d'aimer le prochain. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, dit, ou son péché. Ça veut dire qu'on sait que Dieu peut le toucher. Et que Dieu peut le délivrer. Et n'ayons pas un regard sur le monde mesquin ou un petit peu orgueilleux, où je regarde en haut et puis « Ah, le monde, ouais, mais tu étais dans le monde toi aussi. » C'est pas vrai? Et si le Seigneur n'avait pas sorti du monde, peut-être ce serait pire que certains, parce que Dieu nous fait grâce. Je suis dur, hein? Vous vous dites « Oh, ce pasteur, il est dur, c'est pas grave. Hein? » Ne soyons pas de ceux qui allons jusqu'à refuser une possibilité de grâce pour ces personnes. Cette jeune fille, pour moi, elle est exemplaire. Elle avait tous les arguments, toutes les raisons de mépriser le général syrien, pardon, Naaman, de le rejeter ou de dire bien fait pour lui. Elle a fait tout le contraire. Elle a changé d'attitude. Elle s'est pas réjouie de voir celui qui la servissait malade en envisageant une perspective plus heureuse pour sa vie en disant « Ah, peut-être s'il meurt, je vais être tranquille. Peut-être ils vont me relâcher. » Hein? On ne le voit pas essayer de fuir non plus, je l'ai déjà dit. Donc on voit bien que cette femme ne tire pas de conclusion hâtive. Et nous, quand nous sommes dans des circonstances, ne soyons pas de ceux qui cherchons à coups de tronçonneuse, à coups de verset, de tronçonner les cœurs des autres. Soyons de ceux qui disons « Seigneur, je ne comprends pas, ça m'échappe. Moi, j'ai ces sentiments-là. Mais toi, quels sont tes sentiments ? Tes sentiments, c'est d'être vainqueur du mal par le bien. Tes sentiments, c'est de bénir l'autre. Tes sentiments sont bien différents des miens. » Et souvent, pour moi, en tant que pasteur, des fois dans des circonstances, je me dis oh, « Comment tu raisonnes ? Si tu vas là, tu vas sur ce terrain, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Reviens et va sur le terrain de la parole. Va sur le terrain. » Et l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, il te dit « Oh, tu t'embarques là. » Il ne te dit pas ça, mais tu vois que ça s'allume quelque part. Et alors, ben, tu te reprends et tu dis « Non, Seigneur, pardonne-moi. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein, et ça, c'est une réalité, c'est possible par la puissance de Dieu. Vous avez remarqué aussi qu'elle ne se tait pas malgré les risques encourus. Elle n'a pas fait « Bon, je me tais, ma foi, je vis ma foi. Voilà. » Elle ne met pas le boisseau sur cette lampe. Elle n'est pas là pour cacher. Elle dit à sa maîtresse, de Rois chapitre 5, verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle confesse en fait en ce en quoi elle croit. Elle le dit. Alléluia. Hein? Elle a cette audace de la foi. De dire, ça pouvait la mettre peut-être en situation compliquée, elle aurait peut-être été moquée, moi, bon, c'est pas trop méchant, mais elle aurait pu être menacée, ou dire, tu ne parles plus jamais de ça, ou malmenée. Non, elle le dit. Elle sait que le prophète peut être un instrument de Dieu pour bénir son maître. Alléluia. Et vous voyez, elle a pas fait un sermon en 8 points, comme je suis en train de vous faire. Elle a dit juste une phrase. Elle sait que le prophète peut être un instrument de Dieu pour bénir son maître. Alléluia. Et est-ce qu'elle avait raison? Oui, elle avait raison. Hein? Hein? Aussi, elle ne retient pas cette bonne nouvelle. Elle apprend, ça l'interpelle, peut-être il y a eu des raisonnements, mais elle dit, s'il va voir le prophète, il va être béni. Et il a été béni, il a été guéri. Vous savez combien est agréable une parole dite à propos, dit le livre des Proverbes. Hein? C'est important. Et là, c'était une parole à propos, une parole d'espérance. Parce que cet homme avait toute la réussite nécessaire. Ce général était vraiment apprécié par son roi. Il avait certainement, par ses conquêtes, on le voit bien dans le texte, il avait certainement une certaine notoriété. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre de plus ? Ben, il était malade. Il était malade d'une maladie incurable et il allait certainement être rejeté ou en mourir. Ça dépend des coutumes en Syrie, ce n'était pas les mêmes que chez les Hébreux. Hein. Et voici que l'espérance renaît par les dires de cette servante. Alléluia. Hein? Alors, on ne sait pas si elle priait, on ne la voit pas en train de... voilà. Et on voit bien que des fois, ce qui est important, ce n'est pas tellement qu'on voit si elle prie, mais qu'elle ait une attitude qui ressemble à ce que Dieu fait. Hein? L'important dans la parole de Dieu, c'est qu'on a une vie privée avec Dieu, une piété personnelle. On a les temps de rencontre, les temps où on prie ensemble dans l'église, on cherche Dieu, on veut jeûner et prier, des temps où on regarde au Seigneur pour dire « Bon, que ta volonté soit faite ensemble. » Mais aussi notre temps personnel. Et cette jeune fille, elle n'est pas d'église, là. Elle n'est pas de lieu où, ben voilà. Mais elle croyait dans son Père céleste. Alléluia. Hein? Elle ne s'était pas. Elle veut vraiment que Naaman soit béni. Hein. Et vous voyez, quand on aime son prochain, on ne reste pas indifférent à son sort. On ne dit pas, ah oui, ouais, c'est mes voisins, oui. Je me rappelle avoir eu des voisins, quand j'étais jeune marié. Je les saluais tous les... Chaque fois que je les croisais, des personnes âgées, j'ai rien contre les personnes âgées, je suis âgé aujourd'hui, un peu plus. Et chaque fois que je les saluais, ils tournaient la tête. Chaque fois. Hein. Alors je disais, c'est moi. Alors je voyais quand même ma femme sortait, elle, je lui disais, tu les salues, je vais regarder si... Pareil. Alors on était un peu embarrassés. Le jour où on déménage, on est resté un an et demi là dans cette maison, le jour où on déménage, ils nous saluent. Ils ont vu le camion de déménagement. Alors, vous comprenez qu'on, les a qu'on a apprécié leur salut, au moins ce jour-là. Mais c'était peut-être ce que... Allez, bye, partez. Hein. Pourtant, il me semble qu'on n'était pas de mauvais témoignages. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'au début, ça m'irritait. Ça m'irritait et je faisais exprès. Même, je faisais exprès d'attendre pas. Exprès, moi, je suis un peu bizarre des fois. Mais je me suis dit, toi, mon gars, là, je ne vais pas te louper. Je vais te me mettre en face de toi, je vais te saluer. Et quand je l'ai fait une fois, rien. J'ai su rester pendant toi. Hein. Et après, j'ai dit, Seigneur, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut bénir. Tant pis, tu pries pour eux. Ils t'ignorent, ils veulent pas t'aimer ou ils veulent être indifférents à ton égard, mais toi tu veux pas être indifférent, tu les bénis. Et le Seigneur m'a parlé, je me rappelle, c'était d'une manière précise. Je sais pas ce qu'ils ont devenu. Je passe des fois dans la rue maintenant, parce que c'est dans la même ville où je suis maintenant. Chaque fois que je passe dans la rue, je pense à eux. Je sais pas s'ils sont âgés ou vivants encore, je sais pas. Mais je pense à cette situation. Et je dis, Seigneur, t'as de l'humour, tu nous formes de diverses manières. Hein? Mais cette jeune femme, elle se tait pas. Vous voyez, quand on aime son prochain, on ne peut pas rester indifférent à son sort. On ne peut pas dire, ouais, alors bien sûr, on a un avis, il y a des comportements qui nous dérangent, mais ça, c'est humainement. Mais il y a le besoin de salut, il y a besoin de la grâce de Dieu, il y a besoin de la vie. Juste à côté de ma maison, et j'ai regardé sur Internet, là, vous savez, le plan, je m'aperçois que ma voisine, là, un peu plus loin, que je ne connais pas, elle est connue pour faire de l'occultisme. Hein? Et je vois sur le. Ah, je dis, oh! C'est quelqu'un à côté qui fait l'occultisme. Et alors, je dis, vous savez, vous êtes interpellé, vous dites, Seigneur, mais moi, ce que j'ai fait, je dis, Seigneur, tous les jours, je vais prier pour que tout son truc tombe par terre et que tu te révèles et que tu te glorifies. Peut-être elle travaille à l'envers contre moi, mais je ne crains rien. Dieu est avec nous. Alléluia. Hein? Elle ne se tait pas car elle veut vraiment que Naaman soit béni. Nous ne nous taisons pas, mes frères et sœurs. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, dit Matthieu 24, 14, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Par qui est prêchée cette bonne nouvelle ? Bien sûr, par les pasteurs, tous les prédicateurs, certes, mais aussi par tout enfant de Dieu qui est comme ambassadeur du royaume de Dieu. Là où vous êtes, là où tu es, mon frère, ma sœur, c'est pas innocent. Là où tu travailles, c'est pas innocent. Des fois, j'ai des gens de ma famille, ils sont toujours en train de se plaindre de leur travail, des chrétiens, des jeunes. Alors un jour, j'ai dit, écoute, ben, c'est pas pour rien que Dieu t'a mis là. Si t'avais mis dans un endroit où il n'y a que de la lumière, c'est facile, hein. Mais c'est rare les endroits où il n'y a que de la lumière. C'est les endroits où il y a des ténèbres. Oui, c'est dur. Mais Dieu a voulu que tu sois fidèle. Donc au lieu de regimber, accepte, mais prie. Et demande la force de Dieu pour être un bon enfant de Dieu qui va répandre cette bonne nouvelle par tes actes et par tes manières de faire. Quels sont les risques que nous encourons de dire que notre Dieu est tout-puissant, dites-moi. En France, on n'a pas de risque. Hein, si ce n'est que vous être rejeté, méprisé, moqué, peut-être violenté. Moi, j'ai été attrapé par le colbac une fois ou deux. Hein. Mais là, je vous assure que vous priez hein, intérieurement. Oh, Seigneur, secours-moi. Hein. Parce que le gars, hein, quand c'est petit, bon, ça va, on va se débrouiller. Hein. Quels sont les risques qu'on encourt ? Ben aussi d'être entendu. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, je ne suis pas entendu, mais des années après, la personne dit, ah oui, mais je me rappelle tel jour, là. Quelqu'un avait dit ça. Je l'avais rejeté, mais aujourd'hui, je crois. Je pense à... Quand j'ai travaillé ici chez la Techware, il y a très longtemps, le siècle dernier, là j'étais en train de faire des démarches, vous savez, pour retrouver des papiers par rapport à la retraite, comme tout ce qui est administratif, il faut le faire comme il faut, et je ne retrouvais pas certaines choses, et je me suis souvenu d'un nom d'un collègue de travail qui avait été à l'école avec moi, par un autre chrétien de Montauban, j'ai pu avoir son numéro de téléphone, et donc on ne s'était pas contacté depuis, alors attendez, je calcule, 30, non, pas un siècle quand même. Merci. Hein. Merci. 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. On ne s'était jamais contacté. Il savait que j'étais pasteur parce qu'il m'avait fait savoir les choses. Et là, je l'avais eu au téléphone dernièrement. Bon, je n'ai pas abouti à ce que je voulais dans mon sens pratique, mais ça, ce n'est pas grave. Mais en même temps, il me posait des questions sur la grâce. Très peu, parce qu'il était prudent. Et il était surpris, finalement, que, ben, on parle de la grâce de Dieu comme ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, que tu es bon. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que je lui parlais de Dieu, il rigolait, se moquait de moi. Mais là, aujourd'hui, il est plus âgé. Et je pense que là-dedans, ça tourne. Et je me dis, Seigneur, sauve cet homme. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Je lui ai proposé de venir me voir. Il ne veut pas me voir, monsieur. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il va me mettre comme prédication dans la tête, hein, pasteur, non, non, je ne veux pas le voir. Mais quoi qu'il en soit, Dieu va bénir, et Dieu bénit. Des fois, nous encourons le risque d'être rejetés, méprisés, mais alors, est-ce que Jésus ne l'a pas été, hein? Et quand le contexte devient difficile, peut-être menaçant pour le peuple de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, une fois à Corinthe, et Paul dira ceci, acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. » Et personne ne te mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Où ça? Dans cette ville à Corinthe. Hein? Dieu veut parler au travers de vous, de nous. Dieu veut parler. Je vais aller plus rapidement et bientôt conclure. Quoi, bientôt? Dans quelques minutes. Regardez sa mentalité, son cœur. On a vu que son cœur n'est pas aigre. Il n'est pas amer. Il n'est pas vengeur. On perçoit un cœur stable. Et pourtant, c'est une jeune fille qui devait, ou jeune fille ou femme, qui devait avoir certains besoins comme tout un chacun. Mais elle est stable et confiante en l'Éternel, malgré peut-être l'éloignement de sa famille, malgré les choses qui ne vont pas. Et dans la société, on veut nous faire croire que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est fini, oh, c'est un drame. Eh bien, non, ce n'est pas un drame. La vie, il y a des souffrances dans la vie, des situations compliquées. La mort aussi existe. Et l'être humain, dans la société, veut calfeutrer toutes ces réalités, veut niveler, veut dire, donner toujours un contexte aseptisé. Mais l'enfant de Dieu, il n'a pas peur du contexte. Il a peur de déchoir de sa position, de tomber de sa position spirituelle. Quelqu'un peut dire, oui, mais cette fille, jeune fille, vous savez, elle est exceptionnelle. Hein, parce que, Mais moi, je trouve beaucoup de gens exceptionnels dans la parole. Hein. Beaucoup d'anonymes qui sont exceptionnels. Hein, parce que des fois, on met beaucoup de gens, certains qui sont en vue, mais vous regardez, il y a beaucoup d'anonymes qui sont exceptionnels dans la parole de Dieu. Non, c'est pas elle qui est exceptionnelle. C'est qui? C'est Dieu qui est exceptionnel. C'est lui qui est exceptionnel. Mon frère, ma sœur, hein, ne comptez pas sur votre force de caractère ou sur vos, je sais pas, bon, vos titres, etc. Ça sert, excusez-moi, ça sert pratiquement à rien, ça. Ce qui fait la force de l'enfant de Dieu, c'est lui, c'est cette communion, c'est cette relation. C'est ce qui fait la force de l'enfant de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. La Bible dira que ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés, mais pas systématiquement épargnés. Je vous cite le psaume 18. L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ça ne veut pas dire que, comme il est un bouclier, il n'y a pas d'opposition, au contraire. Mais il est un bouclier. Alléluia. Dans Nahum, chapitre 1, verset 7, il nous dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Vous voyez, il est un refuge au jour de la détresse. Ça veut dire que la détresse, elle atteint les enfants de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il nous arrive de l'opposition que de suite, il y a un problème, dans le sens ce n'est pas normal. Ça peut être, je ne dis pas de tout accepter comme ça, tout de go, mais quand même, la souffrance fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Mais le secours de Dieu est toujours permanent. Ceux qui se confient à l'Éternel connaissent une stabilité. La Bible dira dans Psaume 125, j'en aurais pu en prendre plusieurs, « Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, et ne chancelle point, est affermie pour toujours. » Vous voyez ? Ceux qui se confient à l'Éternel, ben, ils sont appuyés sur le roc inébranlable. Alléluia. Et tout ça, vous le savez, je le sais. Mais plaise à Dieu que quand c'est compliqué, je puisse m'y appuyer. Et le moral aussi est renouvelé quand on se confie à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alors leur force physique, ouais, on en a besoin. Mais aussi, surtout, une force spirituelle. Vous savez, quand Joseph était... J'aime relire l'histoire de Joseph. Quand Joseph est en prison, alors qu'il a accepté de ne pas pécher, de ne pas aller dans cette sollicitation de Madame Potiphar, il se retrouve en prison. La Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté ». Alors moi, ce verset m'a toujours impressionné parce que c'est Genèse 39, verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté ». On pourrait dire « Ouais, tout ça va bien, on pense qu'il est élevé comme second après Pharaon », mais non, c'est le moment le plus fatidique. Le moment le plus compliqué, le moment où on oublie même qu'il est en prison, où il avait demandé qu'on parle de lui, mais ça ne s'est pas fait. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Vous voyez ? Dans l'épreuve, Dieu ne nous dit pas « tu sors de l'épreuve obligatoirement », mais il traverse avec nous et il nous aide. Et il nous fait réussir par sa grâce. Vous savez, cette jeune femme, je crois, elle a une remarquable compréhension du plan de Dieu. Peut-être bien plus que ses compatriotes à ce moment-là, qui étaient dans le pays peut-être. elle reconnaît que le Dieu d'Israël aiderait même ce non-juif. Quand même. Hein? C'est remarquable. Mais pourtant, on est sous l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'était quoi? Œil pour œil. Voilà, dent pour dent. Hein? Alors, si sous l'ancienne alliance, elle a pu se comporter comme ça, pensez-vous que nous, dans la nouvelle alliance, comment on va se comporter? Hein? Je dirais, plus on entre dans le lieu secret, plus nous soupirons et nous aspirons à la ressemblance, je dirais, au cœur de Dieu, au sentiment de Jésus. Hein, Philippiens 2,5, qui est en vous les sentiments qui étaient en Jésus, je l'ai cité tout à l'heure. Elle a accompli ce que Jésus et les apôtres vont enseigner des siècles après. Quand Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent », mes amis, elle n'a pas attendu cette propos de Jésus, elle a déjà vécu, bien des siècles avant. L'apôtre Pierre dira à 1 Pierre 3,9 « Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Alléluia. Mes frères et sœurs, on est dans les ténèbres. Autour de nous, il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont loin de Dieu. Je peux avoir un regard et une distance à leur égard parce que je m'épargne, mais avec une certaine mépris, mais Dieu ne veut pas ça. Il me dit, aime-les, mais ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'ils font, mais tu te tiens, toi, dans ta fidélité à mon égard. Par contre, tu ne refuses pas, tu parles quand tu peux, tu vis pleinement ta vie d'enfant de Dieu, et ça sera bon, parce que si tu fais ça, tu seras aussi béni, hein, parce que Dieu bénit. Elle a une foi en son Dieu bien évidente, bien établie, bien scellée. Ce n'est pas une foi légère qui, au moindre coup de vent, s'estompe. C'est une foi qui est là. Son témoignage soutient pleinement, je dirais, les paroles qu'elle a dites à sa maîtresse. Elle ne cherche pas son bien à elle en disant bah, « mais c'est mon avantage, si lui va mal, ce sera mon avantage s'il se passe ceci ». Non, non, elle ne cherche pas son bien à elle, elle cherche le bien du prochain. Et ça, il faut qu'on se le rappelle, la Bible dira que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Moi, des fois, il me tarde dans le ciel pour dire, tiens, lui, elle, là, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenue après? On ne sait pas. Il y a comme un moment, paf, ça s'est focalisé sur cette personne. Mais voilà, quand Naaman rentre chez lui, complètement guéri, on pense que ça devait être spécial, quand même. La jeune fille devait dire, alléluia, gloire à Dieu. Et tous, ils ont dû se dire, oh, Dieu existe. Hein, bon, on invente là, hein, c'est pas ma Bible à moi, hein, ça, c'est pas écrit dans la Bible comme ça. Hein, d'accord? On ne connaît d'elle que ce qu'elle faisait, ce qu'elle a dit. Deux versets, hein, c'est anonyme. Et nous, on est tous des anonymes, on n'est pas exactement des gens reconnus, adulés, mais on est des gens qui aimons le Seigneur. On est des gens qui avons ce bon dépôt de la foi dans nos cœurs. On est des gens qui soupiront après la vie de Dieu. Et c'est peut-être vil aux yeux des hommes, mais tellement utile entre les mains du Seigneur. Hein, souvent, on se sent, les gens, ils peut-être peuvent se moquer de nous, mais alors, cette jeune femme, peut-être, a été insignifiante, peut-être, ou bon, il l'a considérée comme insignifiante, peut-être, Naaman, quand elle était là, comme d'autres serviteurs, certainement, mais ça a été salutaire pour sa santé. D'ailleurs, Naaman, il a eu une parole d'une servante. Il y a eu la parole des autres serviteurs qui lui disent « Mais si on t'avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait, en français. » On voit bien que Dieu utilise les gens faibles, les gens anonymes, petits, serviteurs. Il les utilise pour sa gloire. Il les utilisera pour sa gloire. Hein? Encore une fois, le Seigneur nous montre qu'il porte son regard sur les personnes comme vous et moi. Hein? On est anonyme pour beaucoup, mais pas pour le Seigneur. On est insignifiant pour beaucoup, mais on est utile dans les mains du Seigneur. Peu importe qu'on connaisse notre nom, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais pourvu qu'ils connaissent celui qui règne. Peu importe si on est reconnu, on se rappelle de nous. Et alors, on se rappelle pas de nous, qu'est-ce que ça change en quoi? Mais Dieu, lui, ne nous oublie pas. Et il t'oublie pas. Alléluia. Hein? Dans la Bible, on fait connaissance avec plusieurs personnes dont on connaît pas le nom, hein. Ah, ce serait, je m'y amuse, oui, ça m'intéresserait. Il faut que je fasse le compte un peu de tous ces anonymes que Dieu va utiliser. Hein? Mais ils vont être utilisés pour accomplir les desseins divins. Nous préférons laisser un bon témoignage plutôt que notre nom soit connu. Moi, honnêtement, que Carayol, hein? D'ailleurs, ma lignée, c'est pas extraordinaire. Donc, à quoi ça sert? Ben, si vous l'oubliez, voilà. Hein? J'avais un pasteur formateur, il s'appelait, vous l'avez connu, hein, ils viennent des fois ici, c'est M. Charondir. Il a été mon formateur, le pasteur Charondir. Et puis il me dit, tu sais ce que ça veut dire charrendière. J'ai dit, oui. Il me dit, je dis, oui, je pense savoir. Alors, il m'explique. Il dit, ça fait, vous savez, ceux qui font les charrettes, hein, les fabricants à l'époque de charrettes. Et il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, carriole? Je dis, oui, je sais ce que ça veut dire. Hein, bon, et il m'a dit, ben, c'est ceux qui fabriquent les carriolettes, hein, pour certains qui ne connaissent pas toi, hein, les petites trucs à roues, là, et les carriolettes. Donc, oui, je dis, oui, je sais, je sais. Et on rigolait. Puis, mais moi comme un 40, hein, on rigolait de ça. Pour moi, ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié. Le nom, qu'on oublie le pasteur qui a prêché, ça pourvu qu'on se rappelle la parole de Dieu. L'important pour nous, ce n'est pas d'être élevé, c'est que lui soit élevé. Alors, il y a d'autres serviteurs dans ce chapitre. Je vous laisse le soin de réfléchir à ceux qui ont escorté Naaman. Et puis, Gehazi, c'est un serviteur qui s'est un peu raté, je pense, dans beaucoup de choses. Mais le peu que nous rapporte ce passage concernant cette jeune femme, ça nous émeut. Moi, ça ne me laisse pas indifférent. Et je vais dire que cette foi convaincue et affirmée, qui est révélée quand cela est nécessaire, elle dit les choses, mais c'est révélé quand c'est nécessaire. Elle a un cœur de servante et une mentalité qui rend un témoignage efficace. Que Dieu nous aide à être ses serviteurs. Que Dieu nous aide à être ses servantes, mesdames. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Plus que jamais, on est dans cette urgence d'annoncer la parole de Dieu autour de nous. Mais on n'est pas dans l'inquiétude. On sait que Dieu fait concourir les circonstances. Il a des œuvres préparées d'avance. Et dans l'Église, vous allez voir la gloire du Seigneur certainement de diverses manières. Prions ensemble. Te remercions pour ta parole, Seigneur. Elle est tellement riche, tellement pleine de vérité que nous sommes toujours nourris par ce qu'elle nous enseigne. Nous te prions, Seigneur, que ce ne soit pas juste pour satisfaire notre connaissance des choses. Mandons maintenant que tu nous aides à pratiquer ces choses et que dans les circonstances, dans les événements qu'on va vivre, nous ayons toujours soumis à l'esprit cette pensée que tu veux que nous agissions de telle et telle manière. Nous ne voulons pas tomber dans la lettre qui tue, mais nous voulons être vivifiés par ton esprit. Oui, rends vivant ces choses dans nos cœurs, afin que nous soyons en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Tant sont loin de toi. Seigneur, nous sommes émus de compassion pour eux, mais nous voulons être vivants en toi. Et la meilleure réponse, c'est que nous soyons fidèles dans toutes nos voies à ta personne. Merci pour l'Église de Sainte-Anne. Merci pour les frères et sœurs que tu bénis. Merci pour ceux que tu guéris, ceux que tu relèves. Nous savons que tu es toujours le même. Ta puissance n'a pas changé. Tu es, Seigneur, le vivant et le véritable. Mais nous savons que tu vas rajouter à ton peuple. Bénis-nous les jeunes, Seigneur, qui sont dans cette rencontre. Où elle est de toi. Que plusieurs soient vivifiés, encouragés et bénis de toi. Merci pour tes grâces et tes bontés. Amen.